Chapitre 5. Qui donc est celui-ci? Lorsque la foi a été amenée à une pleine conviction en répondant à cette question qui concerne le Seigneur Jésus, cela entraîne l'assurance qu'il doit nécessairement être à même de répondre à n'importe quelle circonstance difficile. Cependant, malgré tout, il est bon pour le disciple de le voir vraiment ayant affaire aux hommes et aux peines qu'ils connaissent à cause du péché, dans sa grâce qui délivre. Dans ce chapitre, nous voyons le Seigneur qui manifeste sa puissance et, par là même, continue la formation de ses disciples. Cette formation peut être aussi la nôtre en parcourant le récit qui nous est donné. Pendant la traversée du lac, la puissance de Satan a été à l'œuvre, cachée derrière la furie de la tempête. À l'arrivée sur l'autre rive, elle devient tout à fait évidente dans l'homme possédé d'un esprit immonde. Ayant connu la défaite dans ses œuvres les plus secrètes, l'adversaire maintenant lance ouvertement un défi sans perdre de temps, car cet homme rencontre immédiatement Jésus au moment où celui-ci débarque. C'est une sorte d'épreuve-test. Le diable a fait de ce pauvre malheureux une forteresse où il espère tenir bon à tout prix et, dans cette forteresse, il a jeté toute une légion de démons. Si jamais il y a eu un homme qui a été maintenu irrémédiablement captif des puissances des ténèbres, c'est bien lui. Dans son histoire, nous voyons le reflet de la condition où a sombré l'humanité sous le pouvoir de Satan. Il avait sa demeure dans les sépulcres, et les hommes aujourd'hui vivent dans un monde qui devient de plus en plus un vaste cimetière à mesure qu'une génération après l'autre disparaît dans la mort. Alors, personne ne pouvait le lier, car on avait souvent essayé fers et chaînes, mais en vain. Il n'était pas question de le maîtriser. Ainsi, aujourd'hui, il ne manque pas de mouvements, de méthodes qui ont pour but de réfréner les mauvais penchants de l'homme, de réprimer leurs actions les plus violentes et de soumettre ce monde afin de le rendre agréable et d'y faire régner l'ordre. Mais rien n'y fait. Alors, avec ce démoniaque, on a essayé autre chose. Et si on changeait sa nature? Il est dit cependant que personne ne pouvait le dompter. Ainsi, cette idée s'est-elle révélée inutile, et il en a toujours été ainsi. Il n'est pas davantage au pouvoir des hommes de changer leur nature que de lui mettre un frein et de l'empêcher d'agir. La pensée de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Romains 8, verset 7. Aussi ne peut-elle pas être contrainte. Il est dit encore « Ce qui est né de la chair est chair » Jean 3, verset 6, quelles que soient les tentatives pour l'améliorer. Aussi n'est-il pas question de la modifier ou de la changer. Et il était continuellement de nuit et de jour dans les sépulcres et dans les montagnes, toujours agité, criant, toujours malheureux, se meurtrissant avec des pierres, se détruisant lui-même dans sa folie. Quel tableau! Et il nous faut ajouter quel tableau caractéristique de l'homme sous la puissance de Satan. C'était un cas exceptionnel, il est vrai. L'emprise de Satan sur la majorité des hommes se fait d'une manière plus douce et les symptômes sont bien moins prononcés. Ils sont pourtant là. On peut entendre le cri de l'humanité alors que les hommes se font du tort à eux-mêmes par leurs péchés. Quand l'homme parle, les mots se forment sur ses lèvres, mais l'intelligence qui est derrière est celle des démons qu'il contrôle. Eux, ils savaient quelle sorte d'homme était le Seigneur, même si d'autres ne le savaient pas. D'un autre côté, ils ne savaient absolument pas à quoi correspondait son service. En vérité, il y aura une heure où le Seigneur livrera ses démons avec Satan, leur maître, au tourment, mais tel n'était pas son service à ce moment-là. Encore moins était-ce son service à l'égard des hommes. Au démoniaque, Jésus vient apporter non pas les tourments, mais la délivrance. Le Seigneur a ordonné aux démons de sortir, et ils savent qu'ils ne peuvent pas résister. Ils sont en présence du Tout-Puissant, et ils sont obligés de faire ce qu'il leur a été ordonné. Il leur faut même demander la permission d'entrer dans les pourceaux, qui pèsent non loin de là. Les pourceaux, animaux impurs selon la loi, n'auraient pas dû se trouver là. Les esprits étant également impurs, il y a affinité entre eux et les pourceaux. affinité qui a des conséquences mortelles pour ces animaux. Les démons ont mené l'homme à l'autodestruction en se servant de pierres tranchantes. Avec les pourceaux, l'emprise est immédiate et complète. L'homme est délivré, les pourceaux sont détruits. Le résultat, en ce qui concerne l'homme lui-même, est merveilleux. Ses errances incessantes sont finies, car il est assis. Autrefois, il ne portait pas de vêtements, comme Luc nous le dit. Maintenant, il est vêtu. Ses hallucinations ont cessé, car il est dans son bon sens. L'application qu'on peut faire de tout ceci pour l'évangélisation est tout à fait évidente. Le résultat, en ce qui concerne les gens de la contrée, est cependant tout à fait tragique. Ils montrent un état d'esprit qui laisse douter de leur bon sens, bien qu'aucun démon ne soit entré en eux. Ils n'ont aucune compréhension ou juste appréciation du Christ. En revanche, ils s'accommodent fort bien de la présence des pourceaux. Si la présence de Jésus signifie la perte des pourceaux, alors ils préfèrent s'en passer, même si cette présence fait disparaître un démoniaque furieux. Et les voilà qui le prient de s'en aller de leur territoire. Le Seigneur accède à leur désir et s'en va. Tout cela est une bien grande tragédie, même s'ils ne s'en rendent pas compte à ce moment-là. Suivra une tragédie plus grande encore. Le Fils de Dieu sera chassé de ce monde. Et la conséquence, ce sont 19 siècles remplis de mal de toutes sortes. Le départ du Seigneur a créé une nouvelle situation pour l'homme qui vient d'être délivré des démons. Naturellement, il désire la présence de son libérateur, mais il apprend que, pour le moment, il doit demeurer à la place où le laisse l'absence de Jésus et témoigner pour lui, particulièrement auprès des siens. Notre position aujourd'hui est tout à fait semblable. Bientôt nous serons avec Jésus, mais actuellement il nous appartient de témoigner pour le Seigneur là où il n'est pas. Nous aussi, nous pouvons raconter aux nôtres quelle grande chose le Seigneur a faite pour nous. Ayant retraversé le lac, le Seigneur se trouve immédiatement en présence d'autres cas de misère humaine. En chemin vers la maison de Jaïrus, où est couchée sa fille, qui est à l'extrémité, il est arrêté par la femme qui a une perte de sang. Son mal dure depuis 12 ans et échappe complètement à la compétence des médecins. Son cas à elle est désespéré, tout comme l'était celui du démoniaque. Lui était irrémédiablement captif d'une foule de démons, elle l'est d'une maladie incurable. De nouveau, nous pouvons y voir une analogie avec l'état spirituel de l'humanité, et particulièrement avec les efforts d'une âme réveillée, comme cela nous est décrit en Romains 7. Beaucoup de luttes, beaucoup d'efforts sincères, mais aucun soulagement comme résultat. C'est plutôt une aggravation de l'état du malade qui décrirait le cas qui nous est présenté ici, jusqu'à ce que l'âme arrive au bout de ses recherches et, après avoir tout dépensé, entende parler de Jésus. Alors, quand elle a cessé tout effort pour obtenir une amélioration et qu'elle est venue à Jésus, lui se révèle être le grand libérateur. Dans le cas du démoniaque, nous ne pouvons pas vraiment parler de foi, car il était complètement dominé par les démons. Dans le cas de la femme, nous pouvons seulement parler d'une foi qui est imparfaite. Elle a confiance dans la puissance de Jésus, puissance si grande que même ses vêtements la communiquent. Cependant, elle doute de pouvoir parvenir jusqu'à lui. Les foules qui se pressent l'en empêchent, et elle ne se rend pas compte à quel point lui, le parfait serviteur, est à la disposition de tous ceux qui ont besoin de lui. Cependant, la guérison dont elle a besoin, elle la reçoit en dépit de tout. L'accès dont elle a besoin est rendu possible et la bénédiction lui est apportée. Satisfaite de cette bénédiction, elle se serait éloignée furtivement. Mais il ne doit pas en être ainsi. Elle aussi doit témoigner de ce que la puissance de Jésus a fait, et par là, elle doit recevoir une autre bénédiction pour elle-même. La façon qu'a notre Seigneur d'agir envers elle est pleine d'instructions spirituelles. La parfaite connaissance que Jésus a de toutes choses est révélée. Il sait que de la puissance est sortie de lui et qu'on a touché ses vêtements. Il a posé la question, mais il connaît la réponse, car il se retourne pour voir celle qui a fait cela. Sa question révèle aussi le fait que beaucoup l'ont touché de bien des manières. Cependant, Personne d'autre n'a fait sortir de lui de la puissance en le touchant. Pourquoi cela? Parce qu'entre tous, elle seule l'a fait dans la conscience de ses besoins et avec foi. Quand ces deux choses sont là, ce n'est point en vain qu'on est en contact avec Jésus. Bon nombre d'entre nous aimeraient être comme cette femme et souhaiteraient recevoir la bénédiction sans reconnaître publiquement celui qui les a bénis. Il ne doit pas en être ainsi. Le Seigneur mérite que nous confessions la vérité et que nous fassions connaître sa grâce qui sauve. Dès que la puissance est sortie de lui pour notre délivrance, vient pour nous le moment de témoigner. Et comme l'homme a dû aller dans sa maison vers les siens, la femme doit s'agenouiller à ses pieds en public. Tous deux lui ont rendu témoignage et, notons-le, tout à fait différemment de ce que nous aurions pu attendre. La plupart des hommes trouveraient peut-être que rendre témoignage chez soi est difficile. Pour les femmes, ce serait plutôt rendre témoignage en public. L'homme a dû parler à la maison et la femme en présence de la foule. Cependant, ce n'est pas à la foule qu'elle s'est adressée, mais à lui. Comme fruit de sa confession, la femme elle-même reçoit une autre bénédiction. Elle reçoit l'assurance définitive, par la parole du Seigneur, que sa guérison est entière et complète. Quelques minutes auparavant, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie, et puis elle déclare toute la vérité, sachant ce qui lui était arrivé. C'est très bien, mais pas tout à fait suffisant. Si le Seigneur lui avait permis de s'en aller simplement, avec ses bons sentiments et cette connaissance de ce qui lui était arrivé, elle aurait pu être la proie de bien des doutes et de bien des craintes dans les jours suivants. La moindre sensation de malaise aurait fait naître l'inquiétude quant à une rechute éventuelle, mais en l'occurrence elle reçoit la parole définitive de Jésus « Sois guérie de ton mal ». Voilà qui règle tout. Sa parole à lui était beaucoup plus sûre que ses sentiments à elle. Ainsi en est-il pour nous. Quelque chose a été vraiment accompli en nous par l'Esprit de Dieu à la conversion, et nous le savons, et nos sentiments peuvent être des sentiments de bonheur. Mais cependant, il n'y a pas une base solide sur laquelle puisse se fonder notre assurance, ni dans les sentiments, ni dans ce qui a été fait en nous. Le fondement solide pour l'assurance se trouve dans la parole du Seigneur. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui manquent d'assurance, tout simplement parce qu'ils ont commis l'erreur que cette femme a été sur le point de commettre. Ils n'ont jamais vraiment confessé Christ et reconnu ce qu'ils lui devaient. S'ils acceptent de réparer cette erreur, comme l'a fait cette femme, sa parole leur donnera toute assurance. Au moment même où la femme est délivrée, le cas de la fille de Jaïrus devient plus critique. Arrive la nouvelle de sa mort, et ceux qui ont envoyé le message admettaient que la maladie puisse disparaître devant la puissance de Jésus. Mais ils estiment que la mort est un domaine qui lui échappe. Nous avons vu Jésus triompher des démons et de la maladie, même quand les victimes ne pouvaient compter sur aucun secours humain. La mort est, de toutes les choses, la plus irrémédiable. Jésus peut-il triompher de cela? Il le peut, et c'est ce qu'il fait. La manière dont il soutient la foi vacillante du chef de synagogue est très belle. Jaïrus avait été tout à fait confiant que Jésus pouvait guérir, mais maintenant, il s'agit de la mort. C'est la grande mise à l'épreuve de sa foi, et aussi de la puissance de Jésus. Ne crains pas, crois seulement, est la parole qui vient à lui. La foi en Christ ôtera la peur de la mort pour nous comme pour cet homme. La mort n'était qu'un sommeil pour Jésus. Cependant, les pleureuses professionnelles se moquent de lui dans leur incrédulité. Il les met dehors, et, en la présence des parents et de ceux de ses disciples qui sont avec lui, il ramène l'enfant à la vie. Ainsi, pour la troisième fois dans ce chapitre, la délivrance est apportée à quelqu'un dont le cas est désespéré à vue humaine. Mais le commencement du verset 43 s'oppose absolument aux versets 19 et 33. Il ne doit pas y avoir de témoignage cette fois-ci. Cela s'explique, nous le supposons, par l'incrédulité méprisante qui vient de se manifester. En même temps, le Seigneur montre le plus grand souci pour les besoins en nourriture de l'enfant, tout comme il en a montré pour les besoins spirituels de Jaïrus quelques instants auparavant. Jésus pensait à la fois à son corps à elle et à sa foi à lui.